Réponse à Monsieur de Lamartine par Frédéric Bastiat. Extrait du Journal des économistes, février 1845. Un podcast de l'Institut Copé, lu par Philippe Seigneur. Retrouvez nos podcasts sur la tradition libérale française sur notre site www.institutcopé.org. Copé, C-O. De P.E.T. À bientôt. Il y a deux écoles en économie politique. Permettez-moi de les caractériser afin d'apprécier ensuite la mère critique que, par une inexplicable contradiction, vous faites de celle dont, en définitive, vous adoptez le principe, et les emphatiques éloges que vous décernez par une autre contradiction, non moins inexplicable, à celle dont vous repoussez les vaines et subversives théories. La première procède d'une manière scientifique. Elle constate, étudie, groupe et classe les faits et les phénomènes. Elle cherche leur rapport de cause à effet. Et de l'ensemble de ces observations, elle déduit les lois générales et providentielles selon lesquelles les hommes prospèrent ou dépérissent. Elle pense que l'action de la science, en tant que science, sur l'espèce humaine, se borne à exposer et divulguer ses lois afin que chacun sache la récompense qui est attachée à leur observation et la peine dont leur violation est suivie. Elle s'en rapporte au cœur humain pour le reste, sachant bien qu'il y aspire invinciblement à l'une et a pour l'autre un éloignement inévitable. Et parce que ce double mobile, le désir du bien, l'horreur du mal, est la plus puissante des forces qui ramènent l'homme sous l'empire des lois sociales, elle repousse comme un fléau l'intervention de forces arbitraires qui tendent à altérer la juste distribution naturelle des plaisirs et des peines. De là, ce fameux axiome « laissez faire, laissez passer », contre lequel vous manifestez tant d'indignation, qui n'est cependant que la périphrase servile du mot « liberté » que vous inscrivez sur votre bannière comme le principe de votre doctrine. L'autre école, ou plutôt l'autre méthode qui a enfanté et devait enfanter des sectes innombrables, procède par l'imagination. La société n'est pas pour elle un sujet d'observation, mais une matière à expérience. Elle n'est pas un corps vivant dont il s'agit d'étudier les organes, mais une matière inerte que le législateur soumet à un arrangement artificiel. Cette école ne suppose pas que le corps social soit assujetti à des lois providentielles. Elle prétend lui imposer des lois de son invention. La République de Platon, l'Utopie de Thomas Morus, l'Océana de Harrington, le Salente de Fénelon, le régime protecteur, le saint-simonisme, le fourriérisme, l'owenisme, et mille autres combinaisons bizarres, quelquefois appliquées, pour le malheur de l'espèce humaine, presque toujours à l'état de rêve, pour servir de pâture aux enfants à cheveux blancs, telles sont quelques-unes des manifestations infinies de cette école. La méthode analytique devait nécessairement conduire à l'unité de doctrine, car il n'y a pas de raison pour que les mêmes faits ne présentent les mêmes aspects à tous les observateurs. Voilà pourquoi, sauf quelques légères nuances que des observations rectifiées tendent incessamment à faire disparaître, elle a rallié autour de la même foi Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Jefferson, Bentham, Senior, Cobden, Thomson, Huskinson, Peel, Destutt de Tracy, Say, Comte, Dunoyer, Droz et bien d'autres hommes illustres dont la vie s'est passée non point à arranger dans leur tête une société de leur invention avec des hommes de leur invention, mais à étudier les hommes et les choses et leurs actions réciproques afin de reconnaître et de formuler les lois auxquelles il a plu à Dieu de soumettre la société. La méthode inventive devait de toute nécessité amener l'anarchie des intelligences, parce qu'il y a l'infini à parier contre un qu'une infinité de rêveurs ne feront pas le même rêve. Aussi voyons-nous que pour se mettre à l'aise dans leur monde imaginaire, l'un en a banni la propriété, l'autre l'hérédité, celui-ci la famille, celui-là la liberté. En voici qui ne tiennent aucun compte de la loi de la population, en voilà qui font abstraction du principe de la solidarité humaine, car il fallait mettre en œuvre des aides chimériques pour faire une société chimérique. Ainsi, la première observe l'arrangement naturel des choses et sa conclusion est liberté. La seconde arrange une société artificielle et son point de départ est contrainte. C'est pourquoi, et pour abréger, j'appellerai l'une école économiste ou libérale et l'autre école arbitraire. Voyons maintenant le jugement que vous portez sur ces deux doctrines. Il y a en économie politique deux écoles. Une école anglaise et matérialiste, c'est l'école libérale que vous voulez décrire dans ces lignes, qui traite les hommes comme des quantités inertes, qui parle en chiffres de peur qu'il ne se glisse un sentiment ou une idée dans ses systèmes, qui fait de la société industrielle une espèce d'arithmétique impassible et de mécanisme sans cœur, où l'humanité n'est qu'une société en commandite, où les travailleurs ne sont que des rouages à user et à dépenser au plus bas prix possible, où tout se résout par perte ou gain ou au bas d'une colonne de chiffres, sans considérer que ces quantités sont des hommes, que ces rouages sont des intelligences, que ces chiffres sont la vie, la moralité, la sueur, le corps, l'âme de millions d'êtres semblables à nous et créés par Dieu pour les mêmes destinées. C'est cette école qui règne en France depuis l'importation de la science économique née en Angleterre. C'est celle qui a écrit, professé et gouverné jusqu'ici, sauf quelques grandes exceptions. C'est celle qui a proscrit l'aumône, incriminé la mendicité sans pourvoir aux mendiants, blâmé les hôpitaux, condamné les hospices, raillé la charité, mis la misère hors la loi. Et qui, livrant tout sans miséricorde et sans entrailles à la concurrence, cette providence de l'égoïsme a dit aux prolétaires « Travaillez !» Mais nous ne trouvons pas de travail. Eh bien, mourez. Si vous ne rapportez rien, vous n'avez pas le droit de vivre. La société est un conte bien fait. Il y a une autre école qui est née en France, dans ces dernières années, des souffrances du prolétaire, des égoïstes du manufacturier, de la dureté du capitalisme, de l'agitation des temps, des souvenirs de la Convention, des entrailles de la philanthropie et des rêves anticipés d'une époque entièrement idéale. C'est celle qui, prophétisant aux masses l'avènement du Christ industriel, Fourier, les appelle à la religion de l'association, substitue ce principe de l'association par le travail à tous les autres principes, à tous les autres instincts, à tous les autres sentiments dont Dieu a pétri la nature humaine, croit avoir trouvé le moyen d'organiser le travail sans intervertir les rapports libres du producteur et du consommateur, de violenter le capital sans l'anéantir, de régler les salaires et de les distribuer arbitrairement avec l'infaillibilité et la toute justice de Dieu. Cette école qui compte parmi ses maîtres et ses adeptes tant d'hommes de lumière et de foi porte en soi de grands trésors. Un principe, l'association, une vertu, la charité des masses. Mais elle nous semble pousser son principe jusqu'à l'excès et la vertu jusqu'à la chimère. Le fourriérisme est jusqu'ici une sublime exagération de l'espérance. Nous n'appartenons ni à l'une ni à l'autre de ces écoles. Nous les croyons toutes deux dans le faux. Mais l'une manque d'âme et l'autre manque seulement de mesure dans la passion du bien. Nous faisons entre elles la différence qu'il y a entre une cruauté et une illusion. Et nous empruntons, pour la solution de la question des salaires, à l'une la lumière des calculs, à l'autre la chaleur de la charité. Je ne m'arrêterai pas à relever les expressions vagues et fausses, les assertions hasardées qui fourmillent dans ce passage, où il semble que votre plume vous a maîtrisé plus que vous n'avez maîtrisé votre plume. Où avez-vous vu que les économistes traitent les hommes comme des quantités inertes ? Eux qui voient précisément l'harmonie du monde social dans la liberté de leur action. Où avez-vous vu que cette école gouverne en France quand elle ne compte pas un seul organe, du moins avoué, au ministère ou au Parlement? Qu'est-ce que ce dédain pour les chiffres, les calculs, l'arithmétique? Comme si les chiffres servaient à autre chose qu'à constater des résultats. Et comme si le bien et le mal pouvaient s'apprécier autrement que par des résultats constatés. Quelle valeur scientifique est-il possible de reconnaître dans votre indignation contre la dureté du capitaliste, l'égoïsme du manufacturier, en tant que tel, comme si les services industriels et les capitaux pouvaient échapper, plus que les salaires, aux lois de l'offre et la demande qui les gouvernent, pour se soumettre aux lois du sentiment et de la philanthropie. Mais je sens le besoin de protester de toutes mes forces contre les imputations odieuses que vous faites peser sur la tête de tous ces savants illustres dont je rappelais tout à l'heure les noms vénérés. Non, la postérité ne ratifiera pas votre arrêt. Elle ne mettra pas, comme vous le faites, entre Smith et Fourier, entre C et Enfantin, l'abîme qui sépare la cruauté de la simple illusion. Elle ne conviendra pas que le seul tort de Fourier ait été de pousser un grand principe jusqu'à l'excès et une grande vertu jusqu'à la chimère. Elle ne verra pas dans la promiscuité des sexes une sublime exagération de l'espérance. Elle ne croira pas la science sociale redevable au fouriérisme de ses trois grandes innovations, la foi à l'amélioration indéfinie de l'espèce humaine, le principe de l'association et la charité des masses. Parce que la perfectibilité de l'homme, conséquence de son principe intelligent, a été reconnue longtemps avant Fourier. Parce que l'association est aussi ancienne que la famille. Parce que la charité des masses, de quelque manière qu'on veuille la considérer, au point de vue théorique ou au point de vue pratique, dans l'individu ou dans la société, a été formellement promulguée par le christianisme et partout mise en œuvre, du moins à quelques degrés. Mais la postérité s'étonnera que vous assigniez une place si élevée, que vous prodiguiez tant d'encens à une école que vous flétrissez en même temps par ces paroles éloquentes. C'est un monastère où la mère n'est qu'une femme enceinte, le père un homme qui engendre et l'enfant un produit des deux sexes. Mais que blâmez-vous dans les économistes? Seraient-ce les formes parfois arides dont ils ont revêtu leurs idées?
C'est là de la critique littéraire.
En ce cas, il fallait reconnaître les services qu'ils ont rendus à la science et vous borner à les accuser d'être de froids écrivains. Sur ce terrain encore, on pourrait répondre que si le langage sévère et précis de la science a l'inconvénient de n'en pas hâter assez la propagation, le style chaleureux et imagé du poète, transporté dans le domaine didactique, a l'inconvénient bien plus grave d'égarer souvent le lecteur après avoir égaré l'écrivain. Mais ce n'est pas la forme que vous attaquez. C'est la pensée et même l'intention. La pensée. Mais comment l'accuser? Elle peut bien être fausse, elle ne saurait être blâmable, car elle se résume ainsi. Il y a plus d'harmonie dans les lois divines que dans les combinaisons humaines. Permis à vous de dire comme Alphonse, ces lois seraient meilleures si j'eusse été appelé dans les conseils de Dieu. Mais non. Vous ne tenez point ce langage impie, vous laissez de tels blasphèmes aux utopistes. Pour vous, vous vous emparez de la doctrine même dont vous essayez de flétrir les révélateurs. Et dans tout votre écrit, sauf quelques vues exceptionnelles, que je discuterai tout à l'heure, domine le grand principe de la liberté qui suppose de votre part la reconnaissance de l'harmonie des lois divines, puisqu'il serait puéril d'adhérer à la liberté non parce qu'elle est la vraie condition de l'ordre et du bonheur social, mais par un platonique amour pour la liberté elle-même, abstraction faite des résultats qu'il est dans sa nature de produire. L'intention. Mais quelle perversité peut-on apercevoir dans l'intention de ceux qui se bornent à dire à l'arbitraire « L'équilibre des forces sociales s'établit de lui-même, n'y touchez pas. » Pour arriver jusqu'aux intentions des économistes, il faudrait prouver trois choses. Que le libre jeu des forces sociales providentielles est funeste à l'humanité. Qu'il est possible d'en paralyser l'action par la substitution de forces arbitraires. Que les économistes repoussent celles-ci en parfaite connaissance de leur prétendue supériorité sur celles-là. En dehors de ces trois démonstrations, vos attaques, si vous pensiez à les faire remonter jusqu'à l'intention des écrivains dont je parle, ne serait ni justifié ni justifiable. Mais je ne croirai jamais que vous, dont personne ne soupçonne l'honneur et la loyauté, vous ayez voulu incriminer jusqu'à la moralité des savants illustres qui vous ont précédé dans la carrière, qui vous ont légué leur doctrine et que l'humanité a absous d'avance par la vénération et le respect dont elle environne leur mémoire. Y a-t-il d'ailleurs dans ce qu'il vous plaît d'appeler l'école anglaise, comme si une science qui se borne à décrire les faits et leur enchaînement pouvait être d'un pays plutôt que d'un autre, comme s'il pouvait y avoir une géométrie russe, une mécanique hollandaise, une anatomie espagnole et une économie française ou anglaise. Y a-t-il, dis-je, dans cette école des hommes qui, comme les prohibitionnistes, aient proclamé leur doctrine pour abuser les esprits et bénéficier par l'erreur commune, sciemment et volontairement répandue? Non, vous n'en citeriez pas un seul. Aucune secte philosophique peut-être n'a offert le spectacle d'autant de dignité, de modération, de dévouement au bien public. Et si vous voulez y réfléchir, vous comprendrez qu'il devait en être ainsi.
Dans le XVIIIe siècle, quand l'astronomie n'était pas parvenue au point où elle est arrivée de nos jours, on avait remarqué une sorte d'aberration dans la marche des planètes. On avait constaté que les unes se rapprochaient, que les autres s'éloignaient du centre du mouvement. Et l'on se hâta de conclure que les premières s'enfonçaient de plus en plus dans les profondeurs glacées de l'espace, que les secondes allaient s'engloutir dans la matière incandescente du Soleil. La place vint, il soumit ses prétendues aberrations au calcul, il démontra que si les planètes s'écartaient de leur orbite, la force qui les y rappelait s'augmentait en raison de cet éloignement même. Par la toute-puissance d'une formule mathématique, dit M. Arago, le monde matériel se trouva raffermi sur ses fondements. Pense-t-on que celui qui découvrit et mesura cette belle harmonie eût volontiers consenti, dans un intérêt personnel, à troubler ces admirables lois de la gravitation?
L'économie des sociétés a eu aussi ses Laplace. S'il y a des perturbations sociales, ils ont aussi constaté l'existence de forces providentielles qui ramènent tout à l'équilibre. Et ils ont trouvé que ces forces réparatrices se proportionnent aux forces perturbatrices, parce qu'elles en proviennent. Ravis d'admiration devant cette harmonie du monde moral, ils ont dû se passionner pour l'œuvre divine, et répugner plus que les autres hommes à tout ce qui peut la troubler. Aussi n'a-t-on jamais vu, que je sache, les séductions de l'intérêt privé balancer dans leur cœur cet éternel objet de leur admiration et de leur amour. Bonaparte s'en étonna. Peu habitué à de telles résistances, il les honora du titre de niais, parce qu'il refusait leur concours à sa mission d'arbitraire, la regardant comme incompatible avec les grandes lois sociales qu'ils avaient découvertes et proclamées. Et ce titre glorieux, il le porte encore. Et on n'en voit aucun aux affaires, car ils n'y veulent entrer qu'avec leurs principes. Je le dis avec regret, mais avec franchise, monsieur. Je crois que vous avez fait une chose funeste et de nature à égarer les premiers pas d'une jeunesse pleine de confiance dans l'autorité de vos paroles. Lorsque, distribuant sans mesure le blâme et l'éloge, vous avez violemment assailli l'école la plus consciencieuse, la plus pratiquement chrétienne qui se soit jamais élevée à l'horizon des sciences morales, réservant votre enthousiasme, votre sympathie, et pardonnez-moi le mot, vos coquettes câlineries pour ces autres écoles qui ne sont, selon vous-même, que la négation de la liberté, de l'ordre, de la propriété, de la famille, de l'amour, des affections domestiques et de tous les sentiments dont Dieu a pétri la nature humaine. Et ce qui achève de rendre cette injuste appréciation des hommes tout à fait inexplicable, c'est que vous adoptez, ainsi que je l'ai dit, le principe des économistes, la liberté des transactions, la libre concurrence, cette providence de l'égoïsme. Il n'y a d'autre organisation du travail, dites-vous, que sa liberté. Il n'y a d'autre distribution des salaires que le travail lui-même se rétribuant par ses œuvres et se faisant à lui-même une justice que vos systèmes arbitraires ne lui feraient pas. Le libre arbitre du travail dans le producteur, dans le consommateur, dans le salaire, dans l'ouvrier, est aussi sacré que le libre arbitre de la conscience dans l'homme. En touchant à l'un, on tue le mouvement. En touchant à l'autre, on tue la moralité. Les meilleurs gouvernements sont ceux qui n'y touchent pas. Et ailleurs, nous ne connaissons d'autre organisation possible du travail dans un pays libre que la liberté se rétribuant elle-même par la concurrence, par la capacité, par la moralité. Ce n'est pas assez de dire que ces paroles coïncident avec les idées des économistes. Elles embrassent et résument leur doctrine tout entière. Elles supposent en vous la pleine connaissance, la claire vue de cette grande loi de la concurrence qui porte en elle-même le remède général au mot inévitable qu'elle peut produire dans des cas particuliers.
Et cependant, comment croire que votre vue embrasse l'ensemble des faits et des forces sociales qui découlent du principe de la liberté, quand on vous voit décliner le dogme de la responsabilité des agents intelligents et libres? Car en parlant des deux grandes écoles, celle de la liberté et celle de la contrainte, vous dites « j'emprunte à l'une la lumière de ses calculs, à l'autre la chaleur de sa charité ». Pour parler avec précision, vous deviez dire « j'emprunte à l'une le principe de la liberté, à l'autre celui de l'irresponsabilité ». En effet, il résulte des citations que je viens de produire que ce que vous avez pris aux économistes, ce n'est point des calculs seulement, c'est un principe, à savoir, la liberté est la meilleure des organisations sociales. Mais ce n'est qu'à une condition, c'est que la loi de la responsabilité sortisse son plein, entier et naturel effet. Que si la loi humaine intervient et fait dévier les conséquences des actions de telle sorte qu'elles ne retombent pas sur ceux à qui elles étaient destinées, non seulement la liberté n'est plus une bonne organisation, mais elle n'existe pas. C'est donc une grave contradiction de dire qu'on emprunte là la liberté et ici la contrainte, pour en faire un monstrueux ou plutôt un impossible mélange. L'économie politique distingue la charité volontaire de la charité légale ou forcée. L'une, par cela même qu'elle est volontaire, se rattache au principe de la liberté et entre comme élément harmonique dans le jeu des lois sociales. L'autre, parce qu'elle est forcée, appartient aux écoles qui ont adopté la doctrine de la contrainte et inflige au corps social des maux inévitables. La misère est méritée ou imméritée. Et il n'y a que la charité libre et spontanée qui puisse faire cette distinction essentielle. Si elle a des secours même pour l'être dégradé qui a encouru son malheur par sa faute, elle les distribue d'une main parcimonieuse, justement dans la mesure nécessaire pour que la punition ne soit pas trop sévère. Elle n'encourage pas par d'inopportune délicatesse des sentiments abjects et méprisables qui, dans l'intérêt général, ne doivent pas être encouragés. Elle réserve pour les infortunes imméritées et cachées, la libéralité de ses dons et ce secret, cette ombre, ces ménagements auxquels a droit le malheur, au nom de la dignité humaine. Mais la charité légale, contrainte, organisée, décrétée comme une dette du côté du donateur et une créance positive du côté du donataire, ne fait ni ne peut faire une telle distinction. Permettez-moi d'invoquer ici l'autorité d'un auteur trop peu connu et trop peu consulté en ces matières. « Il est plusieurs genres de vices, dit M. Charles Comte, dont le principal effet est de produire la misère pour celui qui les a contractés. Une institution qui a pour objet de mettre à l'abri de la misère toutes sortes de personnes sans distinction des causes qui l'ont produite, a donc pour résultat d'encourager tous les vices qui conduisent à la pauvreté. Les tribunaux ne peuvent condamner à l'amende les individus qui sont coupables de paresse, d'intempérance, d'imprévoyance et d'autres vices de ce genre. » Mais la nature qui a fait à l'homme une loi du travail, de la tempérance, de la modération, de la prévoyance, a pris sur elle d'infliger aux coupables les châtiments qu'ils encourent. Rendre ces châtiments vains en donnant droit à des secours à ceux qui les ont encourus, c'est laisser au vice tous les attraits qu'il a. C'est laisser agir de plus les maux qu'il produit pour les individus auxquels il est étranger, et affaiblir ou détruire les seules peines qui peuvent le réprimer. Ainsi, la charité gouvernementale, indépendamment de ce qu'elle viole les principes de la liberté et de la propriété, intervertit encore les lois de la responsabilité, et en établissant une sorte de communauté de droit entre les classes aisées et les classes pauvres, elle ôte à l'aisance le caractère de récompense, à la misère le caractère de châtiment que la nature des choses leur avait imprimé. Votre prodigieux talent est un puissant levier. Mais ce levier est sans force s'il n'a pour point d'appui un principe. Naguère, vous vous présentâtes devant l'opposition, la bonne foi au cœur et l'éloquence sur les lèvres. Quel résultat avez-vous obtenu? Aucun, parce que vous ne lui portiez pas un principe. Aussi, vous adhériez fortement à la liberté. Si vous la montriez faisant progresser le monde social par l'action de ces deux grandes lois corollaires, responsabilité, solidarité, si vous ralliez les esprits autour de cette vérité, en économie politique il y a beaucoup à apprendre et peu à faire, on comprendrait alors que la liberté porte en elle-même la solution de tous les grands problèmes sociaux que notre époque agite, et qu'elle fait aux hommes une justice que les systèmes arbitraires ne leur feraient pas. Comment avez-vous rencontré des vérités si fécondes pour les abandonner l'instant d'après? Ne voyez-vous pas que la conséquence rationnelle et pratique de cette doctrine, c'est la simplification du gouvernement? Courage donc, suivez cette voie lumineuse, dédaignez la vaine popularité qu'on vous promet ailleurs. Vous ne pouvez servir de maître. Vous ne pouvez travailler à la simplification du pouvoir, demander qu'il ne touche ni au travail ni à la conscience, et exiger en même temps qu'il prodigue l'instruction, qu'il colonise, qu'il adopte les enfants trop nombreux, qu'il s'interpose entre les masses et leur misère. Si vous lui confiez ces tâches multipliées et délicates, vous l'agrandissez outre mesure. Vous lui conférez une mission qui n'est pas la sienne. Vous substituez ces combinaisons à l'économie des lois sociales. Vous le transformez en providence qui ne voit pas seulement mais qui prévoit. Vous le mettez à même de prélever et de distribuer d'énormes impôts. Vous le rendez l'objet de toutes les ambitions, de toutes les espérances, de toutes les déceptions, de toutes les intrigues. Vous agrandissez démesurément ses cadres. Vous transformez la nation en employés. En un mot, vous êtes sur la voie d'un fourriérisme bâtard, incomplet et illogique. Ce ne sont pas là les doctrines que vous devez promulguer en France. Repoussez leurs trompeuses séductions. Rattachez-vous aux principes sévères mais vrais, mais le seul vrai de la liberté. Embrassez dans votre vaste intelligence et ses lois et son action et ses phénomènes et les causes qui la troublent et les forces réparatrices qui sont en elle. Inscrivez sur votre bannière « Société libre, gouvernement simple, idée corrélative et pour ainsi dire consubstantielle. » Cette bannière, les partis la repousseront peut-être, mais la nation l'embrassera avec transport. Mais effacez-y jusqu'à la dernière trace de cette devise « Société contrainte, gouvernement compliqué. » Des mesures exceptionnelles, applicables dans des circonstances rares, dans des cas extrêmes, et d'une utilité après tout fort contestable, ne saurait longtemps contrebalancer dans votre esprit la valeur et l'autorité d'un principe. Un principe est de tous les temps, de tous les lieux, de tous les climats et de toutes les circonstances. Proclamez donc la liberté. Liberté de travail, liberté d'échange, liberté de transaction pour ce pays et pour tous les pays, pour cette époque et pour toutes les époques. À ce prix, j'ose vous promettre, sinon la popularité du jour, du moins la popularité et les bénédictions des siècles.
En note, en disant que les hommes doivent jouir du libre exercice de leurs facultés, il demeure bien entendu que je n'entends point dénier au gouvernement le droit et le devoir de réprimer l'abus qu'ils en peuvent faire. Bien au contraire, les économistes pensent que c'est là sa principale et presque sa seule mission.